Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit public. Aujourd'hui, Israël est-il en train de devenir un État paria? Et fin des ZFE, une capitulation nécessaire? Et nos débatteurs ce dimanche, Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour Harry Gardette.
Magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous venez de publier au petit matin « Démasculiniser la justice ». Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, votre dernier livre aux éditions Flammarion, « L'art de la paix ». Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Harry Gardette.
Historien, directeur de l'Institut français des relations internationales, votre dernier ouvrage « L'accélération de l'histoire » chez Talendier est publié en poche. Et Michel Taubman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, membre du comité de rédaction de la revue Politique Internationale. Vous y êtes responsable du Proche-Orient. Vous avez par ailleurs fondé Shalom Salam, un groupe de dialogue judéo-arabe. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons des ZFE, les zones à faible émission, que les députés ont choisi de supprimer cette semaine dans le cadre de l'examen de la loi sur la simplification de la vie économique. Motif de cette suppression, les ZFE désavantagent les classes populaires qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures propres. Les écologistes protestent. Supprimer les ZFE, c'est refuser de lutter contre la pollution de l'air et prendre donc des risques pour la santé publique. Retour de l'éternel dilemme entre fin du monde et fin du mois. Nous en débattrons. Mais pour commencer, Israël, qui apparaît de plus en plus isolé sur la scène internationale en raison de son intervention militaire dans la bande de Gaza. De quoi transformer l'État hébreu en État paria. Emmanuel Macron n'écarte plus en tout cas la possibilité de sanctions.
S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions.
Un froid glacial caractérise désormais les relations entre Paris et Tel Aviv. Depuis Singapour vendredi, le président français a donc appelé les Européens à durcir leur position à l'égard d'Israël tant que les Israéliens ne desserreront pas leur étau sur la bande de Gaza. Si les Occidentaux abandonnent Gaza et laissent faire Israël, a mis en garde Emmanuel Macron, ils risquent de perdre toute crédibilité à l'égard du reste du monde. La réponse du gouvernement israélien n'a pas tardé. La diplomatie de l'État hébreu accuse le président français d'être en croisade contre l'État juif et ajoute, au lieu de faire pression sur les terroristes djihadistes, Macron veut les récompenser en leur donnant un État palestinien. Il ne fait aucun doute que sa fête nationale sera le 7 octobre. Alors Paris n'est pas la seule capitale, loin de là, à tenir un discours de fermeté à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. L'Espagne de Pedro Sanchez demande des sanctions. La présidente de la Commission européenne, toujours très mesurée, qualifie d'odieuse l'intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza. Les 27 envisagent désormais de revoir les modalités de l'accord d'association entre l'UE et Israël. Alors est-ce une manière pour les gouvernements européens de ne pas être trop déconnectés de leur opinion publique? Car le tournant est palpable. Depuis quelques semaines, les prises de position de personnalités se multiplient. Ainsi, cette tribune signée par près de 300 écrivains, publiée lundi dernier dans Libération et qui appelle à qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza. Car c'est un fait, les alliés traditionnels de l'État hébreu prennent aujourd'hui leur distance. Israël est en train de devenir un État paria, comme l'Afrique du Sud par le passé, va même jusqu'à déclarer le travailliste Yair Golan, un des chefs de la gauche israélienne, mais une gauche inaudible, face à une extrême droite dont le projet semble bien d'éradiquer la présence des Palestiniens dans la bande de Gaza. Michel Taubman, je vais commencer par cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit en Israël, Israël où vous vous rendez régulièrement, celle donc de cet ancien général Yair Golan, un des chefs donc de la gauche israélienne, qui estime qu'Israël est en train de devenir un État paria. Est-ce qu'il a raison de le dire ?
Alors d'abord, non seulement je me rends régulièrement en Israël, mais je suis citoyen israélien et j'ai donc un attachement égal à la France et à Israël. Et lorsque le gouvernement israélien dit qu'Emmanuel Macron va faire du 7 octobre la fête nationale de la France, je ne peux pas accepter. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter ça en tant que Français, en tant qu'Israélien et en tant qu'individu qui analyse objectivement les choses. Bon, ceci étant dit, par rapport à l'isolement d'Israël, j'assistais à quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'était les 7 et 8 mai derniers, j'ai participé au sommet pour la paix qui était organisé à Jérusalem par différentes organisations juives et palestiniennes, alors palestiniens souvent d'Israël, qui sont des citoyens israéliens, mais c'était un mouvement, bon, il y avait environ 5000 personnes, c'est beaucoup, 5000 personnes pour la paix aujourd'hui en Israël, dans un pays de 10 millions d'habitants, dans un pays en guerre en général, c'est beaucoup, et c'est pas évident de manifester pour la paix. Il y avait le discours de Kaya Kallas, la représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère. Il y avait le discours d'Emmanuel Macron, tout ça sur des écrans vidéo. Il y a Bernard Guetta, avec qui j'étais, qui est député européen et qui préside un groupe transpartisan pour la solution à deux États. Mais surtout, il y avait l'ambassadeur d'Allemagne, il y avait l'ambassadeur de France. Bon, il y a Macron, l'ambassadeur de France, ce n'est pas surprenant. Mais il y avait l'ambassadeur d'Allemagne. Et quand on sait ce que le poids de la culpabilité que porte l'Allemagne depuis 80 ans et qui impose à l'Allemagne une fidélité inconditionnelle à Israël, et l'Allemagne a toujours été considérée depuis au moins 40 ans par Israël comme son plus fidèle soutien avec les États-Unis. Quand on sait ça, quand on a comme moi travaillé longtemps à Arte, et je me souviens, c'était pendant la première intifada, mes collègues d'Arte qui me disaient, nous, en tant que journaliste allemand, tu sais, on peut pas se prononcer. On a un devoir de réserve. Eh bien, voir l'ambassadeur d'Allemagne venir à une réunion d'opposants radicaux, pas seulement des gens qui veulent, qui critiquent tel ou tel aspect de la politique de Netanyahou, mais qui disaient stop the war. Et voir l'ambassadeur d'Allemagne soutenir cette manifestation, je me suis dit que là, il y avait une rupture qui était en train de se faire.
Mais qu'est-ce que ça dit, Michel Taubman, cette présence multiple que vous nous décrivez, de l'isolement ou pas du gouvernement israélien, si ce n'est de tout le pays, sur la scène internationale? C'est-à-dire, est-ce que ça témoigne justement d'un...
Alors moi, je vous parle de l'isolement par rapport à ses alliés européens. Parce que avec l'Inde, il n'y a pas de problème. Il y a aujourd'hui, et ça ne vous a pas échappé, tout un tas de pays qui sont peu regardants sur les droits de l'homme, qui sont illibéraux, et quelqu'un comme Netanyahou s'inscrit très bien dans la catégorie de dirigeants aujourd'hui illibéraux. Orban, qui est le seul en Europe d'ailleurs à le soutenir, puisque même Mélanie ne le soutient pas. Hein. Orban, le dirigeant indien, les Russes, les Chinois, Trump, qui d'ailleurs lui-même prend ses distances avec Netanyahou. Ce qui se passe, les questions des droits de l'homme ne sont pas les empêchent pas de dormir. Par contre, on sent très bien qu'Israël est aujourd'hui dans une impasse, indépendamment de ce qu'on peut penser sur le plan de la compassion pour les Palestiniens, etc., dans une impasse, c'est que c'est une guerre sans solution politique. Et on peut gagner des batailles sur le terrain, sur un champ de bataille, mais une guerre, ça se gagne autour d'une table de négociation. Et le problème, c'est qu'Israël n'a toujours pas d'autres projets politiques pour la bande de Gaza et pour les Palestiniens que de faire la guerre, faire la guerre, faire la guerre. Et je terminerai par un mot. Netanyahou a réussi la prouesse de transformer une victoire en défaite. Je m'explique. Il a eu plusieurs occasions pour arrêter la guerre. Il y a eu la mort de Sinoir, l'exécution de Haniyeh à Téhéran. C'est des victoires, très, très symboliques.
Pour voilà, ce sont des responsables du Hamas.
Le Hezbollah, le chef du Hezbollah. Cette attaque iranienne qui a été arrêtée par Israël, les Iraniens qui ont dit on va riposter, qui n'ont pas riposté. Donc, la force de dissuasion israélienne réaffirmée au Moyen-Orient. Et puis la chute de Bachar al-Assad. En décembre, Netanyahou aurait pu dire, nous avons changé la face du Proche-Orient. Eh bien, nous pouvons aujourd'hui faire la concession de libérer les otages en échange de la libération de milliers de prisonniers palestiniens. Et ça aurait été douloureux pour Israël, ça aurait été ressenti comme injuste pour Israël, mais Israël aurait pu s'en sortir sur une victoire et les pays européens, à l'époque, ne s'étaient pas encore dissociés. Et là, plus ça va, plus Israël s'enfonce.
Une occasion manquée pour le gouvernement israélien qui l'aurait peut-être épargné cette fronde dont on sent bien quand même que depuis quelques semaines, alors même si ça se traduit pas forcément toujours en acte, Bertrand Badi, mais il y a quand même, on voit que le gouvernement israélien se fait en partie lâcher par ses alliés traditionnels.
C'est bien le problème, d'abord, que ça ne se traduise pas en actes. Vous nous interrogez sur la pertinence du concept d'État paria. Moi, je ne vois rien qui relève d'un État paria. Qu'est-ce que c'est qu'un État paria ? C'est un État qui est exclu de coopération militaire, économique, commerciale, culturelle, qui est banni de l'ordre international, de bien des points de vue. Rien de tout cela ne s'est produit. C'est quand même assez remarquable que non seulement Israël, après un an et demi de guerre, après officiellement 54 000 morts, dont, dit-on, 60% de femmes et d'enfants...
Et aussi des combattants palestiniens.
Oui, mais il y a ajouté aux 54 000 officiels tous ceux qui ont disparu sous les décombres et tous ceux qui sont morts autrement que par action militaire, par l'effet indirect de la famine, de la maladie, du non-soin et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça fait quand même 3% de la population de Gaza. 3% de la population française, c'est 2 millions de personnes. Et aucune sanction. Nous en sommes actuellement au 17e train de sanctions contre la Russie, ce qui est totalement légitime. Pas un mot pour récuser cette politique, même si son efficacité reste douteuse. L'Iran est un pays qui, depuis 1995, est étranglé par les sanctions. 1995 à l'initiative des États-Unis, avec d'ailleurs une condamnation par la Cour internationale de justice en 1998. Ce pays n'en peut plus, il est exsangue. Il n'a pas fait des dizaines de milliers de morts, des enfants, des femmes. Alors, quand on parle d'État paria et que l'on constate que aucun n'abandonne la coopération sur le plan militaire, et notamment les États-Unis, qui sont quand même indirectement responsables de tous ces morts, et que l'Europe, qui a un vrai levier à travers le fameux accord de 1995, qui par parenthèse avait été négocié en plein contexte d'Oslo, c'est-à-dire dans un contexte inverse de celui que nous connaissons actuellement, aurait pu effectivement avoir un effet sur Israël parce que le partenariat commercial, économique et scientifique entre Israël et l'Union européenne est important, donc c'était un instrument de pression, rien de tout cela.
Pour l'instant, ça va peut-être venir, oui, puisque les Européens semblent d'accord, oui, en tout cas pour en rediscuter.
Vous vous rendez compte, vous dites pour l'instant, alors que ça dure depuis un an et demi. Et que, effectivement, on est dans une phase rhétorique qui risque de durer bien longtemps, parce que les décisions prises à Bruxelles sont des décisions qui demandent du temps, qui demandent pour certaines l'unanimité. Or, on sait que sur les 27, il y en a 9 qui sont contre toute forme de sanction et 18 qui sont plus ou moins favorables. Donc ça veut dire qu'il y a une longue négociation et que lorsque celle-ci sera achevée, à la fin de l'été peut-être, je ne sais pas, eh bien le désastre aura été tel qu'elles n'auront plus aucun sens aujourd'hui. C'est un problème de temporalité et c'est aussi un problème d'agencement qui, hélas, en diplomatie, est un truc bien connu entre la parole et l'action. Sur la Russie, on a tout de suite agi. Sur le cauchemar proche-oriental, on parle et on n'agit pas. Le résultat, en tous les cas pour les victimes, est exactement le même. Et c'est toute la crédibilité de la diplomatie européenne en général et française en particulier qui se trouve mise en péril.
Juste encore un mot, Bertrand Badie, avant de passer la parole à Thomas Gomard et à Magali Lafourcade. Quand vous dites « alors on n'a pas agi », à partir de quel moment, selon vous, mais vraiment une réponse pas trop longue, aurait-il fallu agir ? C'est-à-dire que après le 7 octobre, la réplique et la riposte de l'armée israélienne paraît totalement légitime, puisqu'Israël est attaqué sur son territoire. C'est-à-dire à quel moment ça devient illégitime pour vous, cette riposte israélienne ?
Eh bien, quand la fameuse formule, qui mérite d'ailleurs d'être précisée et dotée de critères de droit d'Israël à la défense, a manifestement tourné au crime d'agression, au crime de guerre et au crime contre l'humanité. Et que nul ne peut considérer qu'il y a un droit légitime à la défense lorsqu'on tue des enfants, lorsqu'on démolit des hôpitaux et des écoles, quand on ruine toute possibilité de soins, lorsque l'on affame une population, et vous avez vu encore cette nuit, lorsque l'on tire sur une population regroupée pour recevoir des secours, comme ça a été le cas à Khan Younes la nuit dernière. Donc là, il il y a longtemps que l'ONU, il y a longtemps que les ONG, il y a longtemps que les observateurs ont patenté ces faits.
Thomas Gomard, est-ce que l'opération que mène actuellement l'armée israélienne dans la bande de Gaza peut être considérée comme illégitime désormais, c'est-à-dire un an et demi après les attaques du 7 octobre ?
La disproportion est évidente. Donc la légitime défense d'Israël a été rappelée et le fait de faire le chiffre donné effectivement de 54 000 morts suffit à montrer cette disproportion et cette férocité de la réponse. Ça, je pense que c'est tout à fait établi.
Je rappelle que alors ce chiffre vient du ministère de la Santé du Hamas, mais qu'il est considéré comme crédible par les Nations Unies.
Oui, à ça, il faut ajouter toutes les destructions de biens physiques. Enfin, je pense que sur la disproportion, elle est évidente. Il y a un problème ensuite plus fondamental, c'est que le 7 octobre, il y a plus d'un millier d'Israéliens qui ont été tués parce que juifs. Et Israël, en légitime défense, va tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de civils. Et même si Tzahal explique que elle mène une guerre éthique, etc., je crois que ça ne convainc plus personne aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur de la disproportion, encore une fois. Mais je voudrais faire un pas de côté, peut-être, pour essayer de répondre à cette idée d'État paria. Vous avez, en introduction, Hervé Gardette, rappelé la formule de Yair Golan qui disait que Israël devenait un État paria comme l'Afrique du Sud l'a été. Et ça, je trouve ça très intéressant à enlever pour deux raisons. D'abord, le fait que c'est l'Afrique du Sud qui a lancé la procédure contre Israël dans le cadre de la Cour de justice internationale. Et puis, pour une deuxième raison qui, à mon avis, va nous conduire peut-être au cœur du problème, c'est que vous avez eu une scène tout à fait édifiante ces derniers jours dans le bureau ovale, une fois encore, entre Donald Trump et le président Cyril Ramaphosa.
Président sud-africain.
Où Donald Trump a mis en scène l'exécution de fermiers blancs en Afrique du Sud, et a imposé au président sud-africain et à son équipe une vidéo à regarder ensemble dans le bureau ovale. Pourquoi je mentionne ce fait ? C'est que je pense qu'en fait, il met le doigt sur quelque chose qui est en train de jouer dans la relation entre les États-Unis et Israël, étant entendu qu'aujourd'hui, le principal soutien d'Israël reste les États-Unis, même s'il y a une petite prise de distance de Donald Trump, mais qui s'explique à mon avis surtout par son détour et sa tournée dans les pays du Golfe la semaine dernière, qui relève du suprémacisme. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, dans une partie aujourd'hui de l'administration Trump, un courant clairement suprémaciste, et évidemment, dans le gouvernement Netanyahou, un courant également suprémaciste. Et c'est probablement ça, à mon avis, qui est en train de provoquer ce rejet par les alliés traditionnels d'Israël et en particulier par les Européens. À partir de là, je crois que le jugement qu'on porte sur un État paria ou un État voyou, je ne sais pas quel est le bon terme, dépend évidemment beaucoup du système d'alliance, du régime politique de ce pays. Et les démocraties, comme Israël se présentent très souvent comme démocratie, peuvent également être...
À juste titre.
Oui, absolument. Mais les démocraties peuvent être aussi... Les démocraties peuvent être bourreaux. Et c'est peuvent passer du stade de victime à bourreau. Et c'est probablement ce à quoi on assiste avec Israël, qui est victime du terrorisme militarisé du Hamas après le 7 octobre, et qui se retrouve dans une posture de bourreau. Et moi, je crois que néanmoins qu'il y a une différence assez essentielle, et c'est pour ça que c'est très intéressant de lier ça... comme Bertrand nous y invite, à la situation de l'Iran, qui est l'État paria, par définition, depuis plusieurs décennies. Parce qu'en fait, la difficulté des Européens, en particulier de la diplomatie française, c'est que Israël est un allié sur le dossier iranien, lequel Iran est un État paria pour la France, qui prend des otages français depuis plusieurs années. Et encore aujourd'hui, nous avons des otages pris par les autorités iraniennes. Et parallèlement plutôt, évidemment, ce qui se passe à Gaza provoque dans l'opinion et explique les déclarations du président de la République. Et je crois que la grande différence, un élément peut-être de réflexion sur l'État paria, c'est est-ce qu'il y a des États paria qui vous désignent comme ennemis ? C'est le cas de l'Iran, c'est le cas aujourd'hui de la Russie, c'est pas le cas d'Israël, qui désigne pas les Européens comme ennemis, mais qui cherche et qui est en train de perdre leur soutien.
Donc ça veut dire qu'il faut quand même veiller peut-être à renouer ou en tout cas à ne pas trop affaiblir cette relation entre la France, l'Europe et Israël.
Je pense que ça conduit d'abord à distinguer d'un point de vue français, quels sont les États qui, je dirais, vont dans le sens de nos intérêts, les États qui vont dans le sens de l'opinion, d'une part. Et d'autre part, ça conduit aussi à être très attentif, je pense, sur le jugement que l'on porte sur les autorités israéliennes aujourd'hui, et de bien souligner, comme pour les États-Unis d'ailleurs, qu'il y a cette vague illibérale, mais il y a en même temps une contestation extrêmement forte et une opposition, Michel Thoman rappelait sa propre expérience, extrêmement forte aujourd'hui aux États-Unis et en Israël, contre cette tendance.
Magali Lafourcade.
Alors sur l'état paria, effectivement, c'est la notion est difficile encore à appliquer à Israël, même si on peut dire qu'il y a peu d'États aujourd'hui qui soutiennent la poursuite des hostilités. Il y a quand même une demande de cesser le feu qui devient assez massive partout. Puis on voit aussi un réveil de la société israélienne elle-même qui est très intéressant, puisqu'en fait les méthodes de guerre et même la clarification des buts de guerre apparaît tellement difficile à comprendre qu'elle devient plus acceptable, en fait, cette guerre pour une bonne part de la société israélienne elle-même, alors même que jusque-là, les manifestations étaient plutôt pour récupérer les otages. Et là, on voit émerger la question de faire la paix et de se cesser le feu. Je crois aussi que c'est intéressant de voir comment se mobilise la France dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on voit Emmanuel Macron qui finalement a une capacité assez forte de mobilisation au sein de l'Union européenne. On sait qu'il y a des pays comme l'Espagne et l'Irlande qui ont depuis longtemps demandé à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Et là, lui, il a une capacité d'entraînement d'autres États. Michel Thoman a rappelé tout à l'heure le poids pour certains États européens comme l'Allemagne ou l'Autriche, cette mauvaise conscience européenne qui a été le territoire de la Shoah, qui fait que c'est tellement difficile de s'engager sur la voie du rappel du cadre juridique duquel est complètement sorti Israël dans le cadre de cette guerre. Donc, bien sûr, dire ça n'enlève rien à l'horreur du 7 octobre, puisque ce sont des crimes de guerre que d'attaquer des civils et de prendre des otages. On voit aujourd'hui que cette guerre qui est menée, la façon dont elle est menée, on est dans des qualifications juridiques qui ont été rappelées aussi par la Cour internationale de justice et par la Cour pénale internationale. Donc, face à ce réveil des consciences, on voit que l'Union européenne a quand même des leviers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord ces leviers, notamment les accords commerciaux, puisque l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Un tiers des échanges commerciaux se font avec l'Union européenne, alors que ce n'est en retour que moins de 1% des échanges commerciaux pour l'Union européenne avec Israël. Donc c'est très asymétrique. Et donc là, il y a une capacité à faire entendre une voix. Ensuite, il y a l'aspect effectivement historique et moral qu'a très bien rappelé Michel Thoman tout à l'heure, à savoir que quand des alliés aussi importants se détournent et disent que c'est disproportionné, comme l'ont fait récemment le Canada, le Royaume-Uni et la France, ça choque la conscience des élites israéliennes et ça peut les amener à un sursaut. Et puis, il y a aussi tous les accords de coopération scientifique sur la recherche, où on voit qu'il y a des questionnements sur les doubles usages, les applications militaires qui peuvent en être faites. Et donc, cet ensemble d'accords qui sont, eux, décidés à la majorité qualifiée dans le cadre de l'accord global d'accord d'association qui, lui, demande que tous les États se joignent à la même voie. Donc, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'Union européenne. On a énormément de marge. Ensuite, il y a les sanctions individuelles contre ceux qui sont en train de nous mettre sur la politique du fait accompli. Et dans ce contexte-là, Emmanuel Macron fait l'objet d'un ciblage particulier. Je voudrais rappeler, là, il y a deux jours, Israël Katz, le ministre de la Défense, a dit en Cisjordanie qu'il voulait envoyer un message à Emmanuel Macron et ses amis, que s'ils reconnaissent un État palestinien sur le papier, nous construirons ici l'État juif sur le terrain. Donc c'est vraiment la politique du fait accompli et une attaque qui cible la France et son président de la République, sûrement parce qu'il a une influence majeure dans ce positionnement.
Cette politique, elle est menée par un gouvernement très particulier, Michel Thoman. Est-ce qu'aujourd'hui ce gouvernement est suivi par la population israélienne? Est-ce qu'il peut y avoir, ce qu'évoquait Magali Lafourcade, une forme de sursaut, notamment de la part des élites? Ou bien est-ce qu'au contraire, le fait qu'Israël soit critiqué énormément aujourd'hui, ça peut provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire peut-être un resserrement de la population autour justement des intérêts d'Israël? Parce qu'on voit que le gouvernement n'est pas forcément très populaire, mais le motif de la guerre et peut-être même les buts de guerre ne sont pas autant contestés qu'on l'imagine.
Alors, C'est évidemment, c'est très compliqué, c'est toujours très compliqué. Déjà, dans notre vie personnelle, nous sommes traversés par des sentiments contradictoires. Donc, un peuple dans une telle situation est traversé par des sentiments contradictoires. Ce qui caractérise cette guerre, c'est qu'elle est intervenue dans un pays qui était dans une crise intérieure existentielle, depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition de la droite et de l'extrême droite, en décembre 2022, on avait tous les samedis soirs des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestaient, non pas du tout sur la question palestinienne, mais qui manifestaient sur la question de l'identité de l'État. Est-ce que Israël, qui s'est défini à sa naissance comme État juif et démocratique, à un moment où Ben Gurion a fait un accord avec les religieux qui était très minoritaire, et que cet accord est, comme dirait Arafat, caduc, mais dans un autre contexte, hein, cet accord est caduc parce que les religieux sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus influents. Est-ce que donc Israël est aujourd'hui plutôt un État démocratique, moderne, démocratique, alors laïcisé, pas dans le sens anti-religieux comme la laïcité à la française, mais dans le sens de la séparation du politique et de la religion, ou un État théocratique, parce qu'effectivement, une partie de la coalition de Netanyahou, une partie importante, a un projet qui est de changer la nature de l'État pour en faire un État théocratique. Et on était dans cette crise-là. Et cette crise-là a été percutée par une crise, par une agression extérieure, dont le Hamas porte l'entière responsabilité. Et je fais partie de ceux qui critiquent jour et nuit le gouvernement Netanyahou, mais il ne faut pas oublier que si le Hamas n'est pas responsable du conflit qui dure depuis 100 ans entre Israéliens et Palestiniens, le Hamas n'en est pas responsable. Par contre, il porte l'entière responsabilité de la phase ouverte le 7 octobre. Et c'est pas du tout une caution des actions qui ont pu être menées après par Netanyahou, mais c'est un fait. Et donc, les Israéliens sont dans une situation extrêmement contradictoire. Quand votre pays est agressé par des gens qui veulent vous exterminer, vous avez dit tout à l'heure que Thierry Gomard, c'était...
Comar.
Pardon, qu'on voulait exterminer les Juifs. Non, c'est les Israéliens, puisqu'il y a quand même une quarantaine d'Arabes israéliens qui ont été tués.
Et des Thaïlandais.
Bon, c'était pas un simple attentat terroriste, c'était une volonté d'invasion. Et donc là, on est passé d'un conflit qui était le conflit pour deux États à un conflit pour la destruction de l'Israël. Alors en réalité, le Hamas n'a absolument pas les moyens militaire d'exterminer Israël, de détruire Israël, et encore moins aujourd'hui. Mais, subjectivement, et là, il faut voir l'histoire du peuple juif, c'est un peuple qui s'est construit, dont l'identité s'est construite dans les persécutions qui ne sont pas simplement imaginaires, mais qui sont réelles, aussi bien en Europe, avec la Shoah, que dans certains pays arabes, pas dans tous les pays arabes, avec des persécutions moins importantes. Et à ces persécutions s'est ajouté le refus arabe pendant très longtemps de l'État d'Israël. Et le 7 octobre a réveillé tout ça. Alors cela a été utilisé par le gouvernement israélien, avec des choses qui sont tout à fait fausses. Ce n'est pas une nouvelle Shoah, Israël ne peut pas être détruit par le Hamas, mais Israël est effectivement en danger existentiel, mais je dirais de l'intérieur. Et par la conjonction de la guerre extérieure et de la manière dont on réagit à l'intérieur et de la division à l'intérieur, on est quand même aujourd'hui dans une situation où une partie de la population ne veut pas faire l'armée, ne veut pas participer à l'armée, et où des 100 000 réservistes sur 400 000 réservistes ne veulent plus combattre. Une situation qui est quasiment pré-révolutionnaire, et donc n'assimilons pas. Voilà, quand on dit État paria, non, c'est pas un État paria, c'est un État qui là-dessus, Bertrand Badi a raison, c'est pas un État paria, mais c'est un État qui est isolé sur la scène internationale. Mais ne confondons pas la population israélienne, qui est à 70% hostile à Netanyahou, et qui veut des solutions, mais sans savoir lesquelles, puisqu'on ne leur propose pas, et le gouvernement Netanyahou, qui est engagé dans une fuite en avant, faute d'une solution politique crédible, qui serait compatible avec le maintien de sa coalition.
Bertrand Badie.
Oui, moi je voudrais revenir sur deux points. Le premier est dans, selon l'usage habituel et amical de mes échanges avec Thomas, sur la nature même des sanctions. C'est très important. C'est-à-dire, Thomas a raison, de plus en plus, la sanction est considérée explicitement et le plus souvent implicitement comme une arme de guerre au lieu d'être une arme de droit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que ça décrédibilise la légitimité de la sanction. Quand on sanctionne, encore une fois, à juste titre, la Russie pour l'acte d'agression commis en Ukraine et également les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui y sont commis, et qu'on ne sanctionne pas Israël, eh bien on délégitime et décrédibilise les sanctions, on la sépare du droit. Le véritable, si vraiment on veut la paix et un ordre international mondialisé, il faut rehausser les sanctions pour en faire une arme de droit. Et là, il y a suffisamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont été patentés pour que l'Europe réagisse, et je ne parle pas des États-Unis, d'autant que l'Europe fait du respect du droit et de la promotion des valeurs sa marque d'existence sur la scène internationale. Alors, on ne comprend plus, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, et ça implique, Michel Thoman le rappelait à juste titre, qu'effectivement, Israël n'est pas un État paria, c'est un État dérogatoire. C'est-à-dire, c'est un État qui, probablement le seul parmi les 193, a le droit, effectivement, de tuer, a le permis de tuer, sans que cela provoque une réaction de droit. Le deuxième élément que je voudrais dire, et qui me paraît très important, c'est qu'il y a un vrai fondement social. À juste titre, Michel Thoman rappelait effectivement l'évolution, et c'est quand même un point très positif et encourageant de l'opinion publique israélienne, mais je voudrais vous citer un sondage qui date, il est tout récent, il date du 26 mai, réalisé par Odoxa pour vos confrères de la chaîne Public Sénat, et qui indique que 74% des Français soutiennent l'idée de sanctions prise contre le gouvernement Netanyahou, et accessoirement, parce que c'est pas directement notre sujet, 63% sont favorables à la reconnaissance de la Palestine. Si on compare à des sondages qui sont pas exactement de même nature, mais qui renvoyaient à la même problématique et qui avaient été faits il y a un an, eh bien, on voit pratiquement un doublement des scores favorables à sanctionner Israël. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience sociale, et vous savez, dans le monde tel qu'il est, je sais que Thomas aime pas quand je dis ça, le fondement sociologique et la pression sociale qui s'exerce sur le système international est de plus en plus déterminant.
Bah, j'allais justement vous poser la question, Thomas Gomard, est-ce que l'opinion peut avoir un poids sur les décisions notamment des États européens?
Oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, les opinions sont beaucoup plus organisées aujourd'hui et souhaiteraient avoir un effet. Et le non, c'est qu'en même temps, quand on regarde les choses sur différents dossiers, on est quand même frappé de voir comment les questions stratégiques prévalent dans la mesure où un petit nombre de personnes prennent des décisions qui ont un effet sur le plus grand nombre. L'exemple d'Israël est là aussi éloquent, l'exemple de la Russie il est aussi, celui des États-Unis, c'est-à-dire qu'on voit bien que des décisions prises par le cœur d'un système politique ont des influences. Et donc en fait, les opinions peuvent effectivement s'organiser, mais le vrai sujet, il est à mon avis de nature politique, c'est quel type d'alternative possible pour un Netanyahou à terme. Est-ce que ça passera par des élections? Est-ce que l'opposition israélienne est capable aujourd'hui de s'organiser et de gagner, en fait, tout simplement? Mais donc, ma réponse est fondamentalement ambivalente, parce que je pense qu'il y aurait une illusion à croire que les mobilisations d'opinion suffiraient à modifier le cours de politique étatique.
Magali Lafourcade.
Oui, moi je voudrais quand même rappeler que la communauté internationale a effectivement un rôle extrêmement important, puisque dans le droit international humanitaire, donc qui organise à la fois le droit de déclencher les hostilités, donc là il y a une légitime défense, et après la conduite des hostilités, c'est-à-dire le jus in bello, c'est le fait de respecter le droit international humanitaire dans la conduite de la guerre. Ces obligations, elles concernent pas seulement les parties au conflit, elles concernent tous les États de la planète, hein, les 193 États. Ça veut dire qu'il y a l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. Or, depuis janvier 2024, nous avons quand même les ordonnances de la Cour internationale de justice qui disent clairement qu'il existe, je cite, un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas seulement une question de morale ou de société civile, c'est-à-dire il y a aussi un engagement donc, des États à cesser d'approvisionner en armes, sinon il y a un risque de complicité sur le terrain du droit pénal international, et puis il y a une obligation pour tous les autres États de trouver tous les leviers, ça peut être des sanctions individuelles, collectives, ça peut être des embargos, ça peut être un certain nombre d'actions qui doivent être menées de façon concertée pour pouvoir faire cesser cette guerre qui est très éloignée aujourd'hui des buts de guerre, quand on entend parler des chariots des Gédéons. Et d'ailleurs, je voudrais finir là-dessus, sur le fait que Anthony Blinken, juste avant de quitter ses fonctions en décembre 2024, a annoncé quelque chose...
Qui était
l'ancien secrétaire d'État américain.
Le chef de la diplomatie américaine.
Il a dit que le Hamas avait reconstitué son potentiel de combattant de l'avant 7 octobre et qu'il régnait toujours en maître. Et ça devrait vraiment nous inquiéter sur ce qui a été annoncé comme objectif de guerre et qu'est jusqu'où on va, on est dans une impasse. Et je crois que c'est ça qu'il faut entendre et que du coup, il faut revenir au droit.
Une toute dernière question, Michel Thomann. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'image d'Israël dans le monde est durablement abîmée ?
L'image d'Israël dans le monde est abîmée, ça c'est très clair. Durablement, on ne peut jamais savoir ce qui se passe, mais il faudra vraiment de grands changements. Il faudra vraiment qu'il y ait un autre gouvernement, qu'il y ait un autre discours. Il faudra du temps. Mais pour mes amis juifs qui en France s'inquiètent de l'antisémitisme, et certains disent de toute façon, le monde entier est contre nous, le monde entier a toujours été contre nous. Je rappelle qu'en 2018, en 2019, le Grand Prix de l'Eurovision a eu lieu en Israël. En 2018, le Tour d'Italie cycliste est parti de Jérusalem. En 2018, il y a eu à Jérusalem cette cérémonie, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem-Ouest, pas à Jérusalem-Est, mais à Jérusalem-Ouest, avec non pas Trump, mais son gendre, sa fille, les évangéliques américains. Et il y avait, moi j'étais là-bas, je travaillais pour une télévision israélienne, et on avait sur grand écran cette cérémonie, et on avait en tout petit, en médaillon, les Palestiniens qui lançaient à la frontière de la bordure de Gaza, qui lançaient des pneus enflammés sur les troupes israéliennes, et ce jour-là, on en a tué 40. C'est passé inaperçu. L'image d'Israël... Quand Emmanuel Macron est allé en Israël en 2020, je crois, pour le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, il est allé à Jérusalem, il a fait toute la tournée, enthousiaste, comme avec la Startup Nation, etc., comme tous les chefs d'État, et il est arrivé à 22h30 à Ramallah, chez Mahmoud Abbas, c'est-à-dire que la visite chez les Palestiniens... Avant, on allait, il y a 10 ou 15 ans, quand je suivais comme journaliste les visites chez les étrangers, ils allaient voir les Israéliens, puis les Palestiniens. On allait de moins en moins voir les Palestiniens. Donc la question palestinienne était éteinte, et l'hostilité à l'égard d'Israël avait largement diminué. Le poids du BDS était très faible. Par contre, ce qui peut...
BDS, c'est la campagne de boycott contre les produits israéliens.
Je m'intéresse comme vous au cyclisme. Le BDS avait appelé à mettre des clous sur la route sur le Tour d'Italie contre les coureurs de l'équipe israélienne. Mais personne n'a fait ça parce que les amateurs de cyclisme préfèrent le vélo. Mais tout ça, c'est pour dire que une grande partie aujourd'hui de cet antisémitisme qui doit nous inquiéter, de cette haine d'Israël qui doit nous inquiéter, est due quand même aux événements actuels. Et donc, il faut très vite trouver une solution politique. Et de ce point de vue-là, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Emmanuel Macron. Je ne sais pas si ce qu'il fera réussira, mais il a au moins le mérite de dire essayons d'ouvrir une perspective diplomatique. Et à un moment donné, il faut arrêter les combats, il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter, et après, on verra les solutions.
Allez, on change radicalement de sujet. Il est déjà presque midi moins 20 sur France Culture. Cette semaine, ça se passe en France, à l'Assemblée nationale, les députés ont supprimé les ZFE, les zones à faible émission.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Je crie victoire parce que c'était une mesure inadmissible, un véritable apartheid social qui était mis en œuvre, au détriment évidemment des plus faibles de nos compatriotes. Donc je suis très heureux, c'est un gage de liberté.
En réalité, les gens meurent en fait de la pollution de l'air. Ils meurent et c'est les plus pauvres qui en meurent. Donc la réalité, c'est que oui, Cette mesure et ces ZFE n'ont pas été accompagnées comme elles auraient dû l'être et comme elles devraient encore l'être. Mais tuer le bébé avec l'eau du bain, c'est complètement absurde.
Voilà, ça s'est passé mercredi soir à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont voté en faveur de la suppression donc des ZFE. Les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission, zones urbaines dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Un dispositif lancé en 2018 afin de répondre à un problème de santé publique. La pollution aux particules fines, en partie causée par la circulation automobile, est responsable de la mort de 40 000 personnes par an, selon les estimations de Santé publique France. Alors ça peut susciter l'incompréhension. Pourquoi supprimer une mesure dont l'objectif vise à protéger la population? C'était ce qu'on entendait dans la bouche de la porte-parole des écologistes au Sénat, Anne Souris. Mais parce que de l'autre côté, il y a la dimension sociale qu'évoquait juste avant elle Marine Le Pen. Parce qu'en effet, les ZFE sont considérés par les opposants comme des outils inégalitaires. Se déplacer dans un véhicule propre, qu'il soit électrique ou peu polluant, est à la portée des plus riches, mais reste un luxe pour les ménages les plus modestes. Avec les zones à faible émission, ces derniers sont victimes d'une double peine. Déjà relégués à la périphérie des grandes villes, ils s'en voient priver l'accès en raison de leur voiture trop vieille. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, donc si la suppression de ces ZFE, déjà déployée dans 77 communes, a obtenu un vote transpartisan, députés RN, mais aussi LR, Modem, Horizon, LFI et quelques Renaissances qui ont dénoncé une mesure technocratique, injuste et susceptible de créer de la colère sociale, avec évidemment dans toutes les mémoires ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes, cette fronde qui avait suivi la mise en place de la taxe carbone qui avait provoqué une hausse du prix du diesel et de l'essence. Pour en discuter dans les quelques minutes qui nous restent, nous sommes toujours en compagnie de Michel Thomman, Thomas Gomard, Bertrand Badi et Magali Lafourcade. Magali, supprimer les ZFE parce que c'est une mesure qui est inégalitaire sur le plan social, est-ce que c'est une justification suffisante à vos yeux?
Alors non, parce que les ZFE sont d'une utilité remarquable. Et d'ailleurs, en fait, derrière cet acronyme qui est très très froid et qui fleure bon la technocratie, il s'agit en fait de la propreté de nos poumons et pas de la propreté. C'est pas un enjeu d'écologie. Et donc, on voit bien que les ZFE ont subi une sorte de focalisation très démagogique et populiste, pour être obtenu comme un scalp anti-écolo par un amendement porté par le Rassemblement national et les Républicains. Et pourtant, il s'agit avant tout d'un enjeu de santé publique et d'intérêt général. La pollution de l'air, vous l'avez dit, c'est 40 000 décès prématurés par an selon Santé publique France. Je suis allée regarder combien de décès il y avait eu du Covid. Et entre 2020 et 2023, c'était 168 000 morts. Ce qui fait que si on lisse par année sur ces trois ans-là, ça fait 56 000 décès par an. Donc on n'est quand même pas très très loin. Or là, pour le Covid, tout le monde avait considéré que c'était une priorité absolue, quoi qu'il en coûte. Et puis je rappelle aussi que donc ce dioxyde d'azote touche aussi les bronches de nos enfants, puisque l'asthme aujourd'hui touche 17% des enfants en France et jusqu'à 30% à Paris. Donc il y a un vrai enjeu. Et c'est aussi en particulier les personnes qui vivent au bord des axes routiers qui sont les premiers touchés, donc les personnes, les ménages les plus plus fragiles sur le plan économique. Donc c'est un enjeu de santé qui n'a pas été calibré comme ça, mais comme présenté comme une mesure écologique. Or, on est face à un backlash extrêmement violent sur tout un tas de séries d'agences et d'organisations qui s'occupent de mesures écologiques, alors qu'il s'agit vraiment de santé.
Sauf que Magali Laforcade, je ne me souviens pas d'avoir assisté à de grandes manifestations pour dénoncer la pollution liée notamment à la circulation automobile, alors que des manifestations pour dénoncer la hausse du prix de l'essence, par exemple, ça, on en a vu.
Et oui, c'est parce qu'en fait, c'est un peu à petit bruit. Et donc, on a l'impression qu'il s'agit d'une mesure donc, déjà qui est très, très mal comprise des Français, puisqu'il y a eu un sondage qui montre que 6 Français sur 10 ne comprennent pas tellement ce que c'est que ce dispositif. Donc déjà, il y a eu un problème de communication autour de l'explication autour de ce dispositif. Ensuite, il y a un vrai problème d'enclavement de certains territoires et d'injustice pour accompagner le changement vers des voitures avec des vignettes qui seraient critères 1 ou 2, pour sortir les critères 3 et 4. Et là, c'est là où les populistes, ils touchent quelque chose qui résonne dans la société parce qu'ils utilisent un point qui est vrai. C'est-à-dire que le populisme prospère quand on peut arriver à articuler différentes colères à partir de choses qui sont réelles. On voit aujourd'hui que le gouvernement a renoncé à l'accompagnement avec les primes à la conversion, avec les bonus écologiques et donc avec le leasing social. Donc tous ces choix très incohérents vis-à-vis de cette politique de zone à faible émission découragent les Français les plus modestes à pouvoir changer de véhicule. Et donc on a une politique qui est devenue illisible et incohérente. Et donc il y a une vraie responsabilité du gouvernement actuel dans cet échec. Mais la messe n'est pas dite puisque ça doit passer après au Sénat. Et ensuite, ce sera peut-être aussi invalidé par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif.
Voilà, cavalier législatif, ça veut dire que c'est une mesure qui est mise dans un projet de loi.
Sans avoir
dans
un rapport.
Une proposition, mais qui n'a pas de rapport voilà,
direct,
avec le thème de... avec le thème de la loi. Bertrand Badi, Magali Laforcade évoquait alors aussi le fait qu'on ne comprenne pas très bien ce que c'est que les ZFE et puis sa dimension technocratique. C'est vrai que déjà, zone à faible émission, ça ne dit pas grand-chose de ce que c'est. J'ai lu un article en préparant l'émission de quelqu'un qui disait, je me souviens plus qui, que peut-être déjà dans l'appellation, si on l'avait appelé par exemple, je ne sais pas, zone à faible pollution ou zone à air pur, peut-être que ça engagerait peut-être un peu plus les gens à se dire, tiens, c'est quelque chose qui est bon pour nous et ça n'est pas une sanction. La ZFE, ça sonne comme... là aussi comme une sanction, comme une punition.
Oui, mais justement, alors qu'il y ait un défaut d'explication et de pédagogie, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je suis effrayé par ce qui s'est passé et que je raccroche à deux autres faits récents. Le premier, c'est une déclaration d'une sénatrice, Madame Evren, qui a déclaré « J'en ai ras-le-bol d'interdire et de culpabiliser les gens ». Bon. Et je le rapproche aussi d'une mesure parallèle en matière de tabac, interdisant de fumer sur les plages et dans les jardins publics et près des écoles, sans aller jusqu'à interdire à fumer sur les terrasses de café.
Alors ce sera à partir du 1er juillet.
On entendait à ce moment-là des personnes interrogées par Radio Trottoir dire « mais si j'ai envie ». Ce verbe est extraordinaire, cette locution verbale. Si j'ai envie de fumer, je dois avoir la liberté de le faire. C'est-à-dire que l'on est en train de mettre en évidence deux poisons de notre démocratie et de notre état de droit, qui est l'idée d'envie et l'idée de liberté sans limite. Et effectivement, je vois derrière cette mesure populisme, Magali a raison, démagogique à souhait, vraiment trois pathologies graves. La première pathologie, c'est de toujours préférer la rationalité individuelle à la rationalité collective. C'est bien à partir du moment où on fait du bien à l'individu que ça fasse du mal à la collectivité n'ayant pratiquement pas d'importance ou en des cas pas de visibilité. Ça a un nom, ça s'appelle le libertarianisme. Ça a un prophète, c'est Monsieur Trump, n'est-ce pas ? Et tout ce qui se fait dans le contexte, je dirais, européen, nord-américain, aujourd'hui.
En la matière, est-ce qu'on n'est pas tous un peu libertariens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère notre intérêt individuel à l'intérêt collectif ?
Vous avez raison, mais le contrat social a été fabriqué pour contenir ces pulsions individuelles. Moi, si je laissais aller toutes mes envies et toutes mes pulsions autour de cette table, vous verriez ce qui se passerait, et ce serait collectivement complètement irrationnel. Ah non, pas jusque-là. D'abord, je suis pas assez fort physiquement. Mais en tous les cas, ce serait irrationnel collectivement. Il y a une deuxième pathologie de nos systèmes contemporains, c'est de préférer la rationalité à court terme à la rationalité moyen-long terme. L'important, quand on est politique, c'est de faire plaisir tout de suite, parce que s'il s'agit de faire plaisir pour dans 5 ou 10 ans, ben on sera sous terre à ce moment-là, n'est-ce pas ? Et donc, effectivement, relâchons les voitures polluantes, sortons nos mégots, faites tout ce que vous voulez, vous serez content sur le moment, et donc vous m'en serez reconnaissant. Ce qui se passera dans 10 ans, on sera plus là pour en rendre des comptes. Et puis il y a une troisième pathologie que Magali a mise aussi en évidence, c'est-à-dire cette façon assez incroyable dans nos États modernes, qui sont pourtant des États riches, de ne pas savoir corriger socialement les limitations individuelles de liberté. C'est vrai que limiter la liberté du conducteur ou du propriétaire de voiture est beaucoup plus douloureux quand on est pauvre que quand on est riche, hein, c'est évident. Du coup, d'ailleurs, qu'attend-on pour taxer davantage les SUV, les gros camions qui polluent la ville de Paris, etc. Mais effectivement, ce qu'il faudrait, c'est des mesures sociales immédiates pour rendre crédible cette action de défense collective. Alors, si on prend pas conscience de tout ça, si on prend pas conscience du fait que notre contrat social est en train de craquer sous l'effet de démagogie stupide, eh ben, effectivement, le réveil sera difficile, mais peut-être qu'on sera mort à ce moment-là.
Thomas Gobin, est-ce que ce sens de l'intérêt collectif, il est quand même pas beaucoup plus facile à adopter quand on est comme, a priori, nous tous autour de cette table, c'est-à-dire des gens qui...
Des cyclistes.
Alors, soit des cyclistes, en tout cas des gens qui habitent à Paris, j'imagine, ou aux alentours, je sais pas où vous habitez, et en tout cas, des gens qui, a priori, ont les moyens de s'acheter un véhicule électrique propre, donc qui n'est pas touché par ces mesures-là.
Je crois que vous avez raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Magali et Bertrand sur l'aspect. Rappeler que c'est un enjeu avant tout de santé publique, plus qu'un enjeu environnemental. Et puis également ce que ça dit de l'état de notre contrat social. Maintenant, pour aller dans le sens de votre question avec Gardette, les gilets jaunes l'avaient montré. C'est-à-dire que c'est aussi lié à notre mode d'aménagement du territoire et de ces grandes métropoles que nous avons construites et qui ont relégué à leur marge les plus modestes, lesquels ont un grand nombre de véhicules en mauvais état. Et on avait vu que c'est souvent la dépense pour les ménages la plus importante, le véhicule, qui est à l'origine, au fond, de la contestation des gilets jaunes. Tout le monde a ça en mémoire, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre introduction. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on a des métropoles qui sont de plus en plus gérées sous une, je dirais, de manière, entre guillemets, écologique, ou par des forces qui se présentent comme écologistes. Est-ce qu'elles ont une bonne gestion ? Ça, très franchement, le débat est ouvert. Quand on voit l'évolution d'une ville comme Paris, d'une ville comme Grenoble, d'une ville comme Nantes, hein, dans l'insalubrité notamment, et qui ont l'impression d'être en fait des citadelles qui se ferment par rapport aux éléments extérieurs. Ça, c'est très paradoxal aussi sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on a des forces qui se présentent comme progressistes dans les villes que je viens de mentionner et qui, en même temps, veulent maintenir aux marges les gens qui... Dont les flux irriguent ces villes. Ça, c'est le premier point.
Il n'y a pas forcément de volonté délibérée.
Mais de fait, c'est ce qui se passe. Il y a tout le débat sur le périphérique, tout le débat sur le Grand Paris, à mon avis, illustre ça de manière assez frappante. Le deuxième point, moi, ce qui me frappe, effectivement, sous l'acronyme ZFE, qui est probablement très mal choisi, c'est la très grande difficulté désormais de faire preuve de constance dans une politique publique. C'est-à-dire qu'il y a là, et ça s'explique par la situation politique, c'est-à-dire que tout simplement de maintenir un cap sur une période qui va au-delà de 5 ans semble désormais relever de la prouesse. Alors même que ces ZFE, peut-être ont-elles un autre terme, sont observées ailleurs en Europe. Londres est une ZFE qui fonctionne. Vous avez plusieurs ZFE également, un nombre très important en Allemagne. Mais ça donne vraiment l'impression désormais d'une incapacité à conduire une politique publique sur la durée. Ça me conduit au troisième point qui rejoint partiellement celui de Bertrand. Je dirais bon courage pour 2027, parce que on se rend bien compte, 2027, oui, parce qu'on se rend bien compte qu'on a un coût de la transition écologique qui va être extrêmement élevé, un coût du réarmement qui va être élevé, un coût de la dette publique qui va être élevé, un coût des investissements dans l'éducation qui va être élevé, et une incapacité des forces politiques à proposer une modification de notre modèle. Ça veut dire qu'on va avoir en 2027, ou alors des gens qui vont essayer de faire un un programme cohérent et qui prend l'ensemble de cette de ces éléments, ou alors des déclarations comme celle que vous avez rapportée en introduction, très ponctuelle et catégorielle.
Michel Thoman.
Oui, alors je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et qui a été mieux dit que moi, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais je vais revenir finalement au sujet de départ. Je repars en Israël après-demain et je suis content d'aller en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation épouvantable en Israël, il y a une situation épouvantable à Gaza, mais les gens croient en quelque chose. Et ce qui manque à nos sociétés, ce qui manque à la France, c'est un idéal collectif. C'est le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est, je crois, le drame des sociétés les plus avancées, où depuis la mort de Dieu, ou en tout cas la mort ou la mise à l'écart de Dieu, et la fin du socialisme comme idéal, on n'a pas trouvé de remplaçant. Alors, le remplaçant, c'est l'écologie. Et c'est pour ça que je dois dire que...
C'est un remplaçant qui ne se porte pas très bien en ce moment.
Qui ne se porte pas très bien, mais... un des théoriciens du socialisme libéral avait dit « Le socialisme, c'est faire venir la liberté dans les foyers les plus pauvres ». Eh bien, je pense qu'une bonne écologie, c'est une écologie qui ferait venir l'écologie dans les foyers les plus pauvres. Et c'est ça l'enjeu. Mais pour moi, l'écologie, c'est, si on regarde le monde tel qu'il est, c'est la seule chose qui peut unir les gens. Et je dirais même, quand je suis là-bas, Israéliens et Palestiniens, peuvent être unis par cet enjeu commun. L'avenir, la question de l'eau, la question de la déforestation, la question de l'alimentation, c'est ce qui peut unir la planète. Alors, je ne sous-estime pas les excès d'écologie, je ne suis pas du tout un super écolo, mais je pense que ce qui est précieux, c'est que on a retrouvé un idéal universel, universaliste. Et je vais dire une dernière chose par rapport à Israël et à la Palestine. Les gens souffrent beaucoup, des deux côtés, pour des raisons différentes et différemment. Je ne mets pas les choses sur le même plan. Mais une de mes amies, Inkouri, qui était la représentante de l'autorité palestinienne, et que Bertrand Badi a dû bien connaître, était la représentante de l'autorité palestinienne en France entre 2006 et 2010, et avec qui on a fait un webinaire l'autre jour, parce qu'on fait des débats entre Israéliens et Palestiniens. Elle a dit une chose très forte, elle a dit ici, on est malheureux, on souffre, mais il y a une chose quand même que tout le monde a, y compris à Gaza, c'est Dieu, c'est la foi en Dieu. Alors il ne s'agit pas ici de réévangéliser l'Europe, mais il s'agit peut-être de dire que l'écologie doit être bien traitée, doit être préservée, parce que c'est un idéal pour la jeunesse. C'est ce qui donne un avenir et une raison de vivre pour la jeunesse, autrement les jeunes sont désespérés.
Ça aurait pu être une bonne conclusion, mais comme il nous reste 45 secondes, ça va être à vous de la faire, Magali Lafourcade.
Je ne sais pas si c'est une bonne conclusion, parce que je ne connais pas vraiment le sujet.
En tout cas, ce n'est pas évident de rebondir derrière.
Unir, si, c'est une belle conclusion, parce qu'il s'agit en fait d'arriver à réconcilier les enjeux de santé, puisque pour moi, il s'agit d'abord d'enjeux de santé et les enjeux sociaux, ce qu'a très bien dit Bertrand. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, Thomas Gomard, on a quand même d'ici 2027, il faudra aussi penser à comment on se situe vis-à-vis de l'Union européenne, puisqu'en fait, on a un risque en termes de finances publiques qui, là aussi, n'a pas été rappelé dans le débat public. Moi, je suis frappée par le fait que, au niveau du gouvernement, on avait une ministre de la transition écologique qui était très favorable au maintien de des ZFE, un ministre des transports qui disait qu'il pleurait pas si elles étaient supprimées, et Bercy silencieux. Or, nous avons une note de la DG Trésor qui explique que ça peut nous coûter extrêmement cher cette histoire de suppression de ces zones-là, puisqu'il y a des directives européennes, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, et surtout nous risquons de ne pas d'avoir à rembourser ce qu'on a reçu de l'Union européenne en termes de subventions et de ne pas pouvoir toucher les autres milliards qui sont prévus, 3,3 milliards pour 2025. Est-ce que nos finances publiques le permettent? Est-ce que notre santé publique le permet? La réponse est non.
Ben voilà, c'était celle-là, la conclusion. Merci Magali Lafourcade, Bertrand Badi, Thomas Gomard et Michel Thoman d'avoir participé à ce numéro de L'Esprit Public, émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc-Jean Reynaud, avec à la prise de son aujourd'hui Félix Delacour. On se retrouve dimanche prochain.